Fin de l'ouvrage de Ernest Renan, Mahomet et les origines de l'islamisme. Enfin, par sa merveilleuse entente de l'esthétique arabe, Mahomet se créa un moyen d'action tout puissant sur un peuple infiniment sensible au charme du beau langage. Le Coran fut en un sens une révolution littéraire aussi bien qu'une révolution religieuse. Il signale chez les Arabes le passage du style versifié à la prose, de la poésie à l'éloquence, moment si important dans la vie intellectuelle d'un peuple. Au commencement du 7e siècle, la grande génération poétique de l'Arabie s'en allait. Des traces de fatigue se manifestaient de toutes parts. Les idées de critique littéraire apparaissaient comme un signe de mauvais augure pour le génie. Antar, cette nature d'arabe si franche, si inaltérée, commence à mouliaka, presque comme ferait un poète latin de la décadence par ces mots. Quel sujet les poètes n'ont-ils pas chanté? Ce fut une immense impression quand Mahomet parut dans ce milieu affadi avec ses vives et pressantes récitations. La première fois qu'Otba, fils de Rébia, entendit ce langage énergique, sonore, plein de rythme, quoique non versifié, il retourna vers les siens tout ébahi. « Qu'y a-t-il donc ? » lui demanda-t-on. « Ma foi, répondit-il, Mahomet m'a tenu un langage tel que je n'en ai jamais entendu. Ce n'est ni de la poésie, ni de la prose, ni du langage magique, mais c'est quelque chose de pénétrant. » Mahomet n'aimait pas la prosodie si compliquée de la poésie arabe. Il faisait des fautes de quantité quand il citait ses vers, et Dieu lui-même se chargea de l'en excuser dans le Coran. Nous n'avons point appris la versification à notre prophète. Il répéta à tout propos qu'il n'est ni un poète ni un magicien. Le vulgaire, en effet, était sans cesse tenté de le confondre avec ces deux classes d'hommes. Et il est vrai que son style rimé et sentencieux avait quelque ressemblance avec celui des magiciens. Certes, il nous est impossible aujourd'hui, en lisant le Coran, de comprendre le charme si puissant de cette éloquence. Ce livre nous semble déclamatoire, monotone, ennuyeux. La lecture suivie en est à peu près insoutenable. Mais il faut se rappeler que l'Arabie, n'ayant jamais eu aucune idée des arts plastiques ni des grandes beautés de composition, fait consister exclusivement la perfection dans le style. La langue est à ses yeux quelque chose de divin. Le don le plus précieux que Dieu ait fait à la race arabe, le signe le plus certain de sa prééminence, c'est la langue arabe elle-même, avec sa grammaire savante, sa richesse indéfinie, sa subtile délicatesse. On ne peut douter que Mahomet n'ait dû ses principaux succès à l'originalité de son langage et au tour nouveau qu'il donnait à l'éloquence arabe. Les conversions les plus importantes, celles du poète Lébide par exemple, s'opèrent par la lecture de certains morceaux du Coran. Et à ceux qui lui demandent un signe, Mahomet n'oppose d'autre réponse que la pureté parfaite de l'arabe qu'il parle et la fascination du style nouveau dont il avait le secret. Ainsi, l'islamisme résume avec une unité dont on trouverait difficilement un autre exemple l'ensemble des idées morales, religieuses, esthétiques, en un mot la vie selon l'esprit d'une grande famille de l'humanité. Il ne faut lui demander ni cette hauteur de spiritualité que l'Inde et la Germanie seules ont connue, ni cette eurythmie, ce sentiment de la mesure et de la parfaite beauté que la Grèce a légué aux races néo-latines, ni ce don de fascination étrange, mystérieux, vraiment divin, qui a réuni toute l'humanité civilisée sans distinction de race dans la vénération d'un même idéal. Ce serait pousser outre mesure le panthéisme en esthétique que de mettre sur le pied d'égalité tous les produits de la nature humaine et de placer au même degré et de l'échelle de la beauté la pagode et le temple grec, parce qu'ils sont le résultat d'une conception également originale et spontanée. La nature humaine est toujours belle, il est vrai, mais non pas également belle. C'est toujours le même motif, les mêmes consonances et dissonances d'instincts terrestres et divins, mais non la même plénitude ni la même sonorité. L'islamisme est évidemment le produit d'une combinaison inférieure et pour ainsi dire médiocre des éléments humains. Voilà pourquoi il n'a été conquérant que dans une espèce d'état moyen de la nature humaine. Les races sauvages n'ont pu s'y élever et d'un autre côté, il n'a pu suffire au peuple qui portait en eux-mêmes le germe d'une plus forte civilisation. La Perse, le seul pays indo-européen où il soit arrivé à une domination absolue, ne l'a adopté qu'en lui faisant subir les plus profondes modifications pour l'accommoder à ses tendances mystiques et mythologiques. Les progrès de l'islamisme, du reste, sont depuis longtemps arrêtés. Il a désormais perdu toute efficacité convertissante. Que si l'on se demande quelles seront ses destinées en face d'une civilisation essentiellement envahissante et appelée, ce semble, à devenir universelle, autant que le permet l'infinie diversité de l'espèce humaine, il faut avouer que rien jusqu'ici ne peut nous aider à concevoir une idée exacte de la manière dont s'accomplira cette immense révolution. D'une part, il est certain que si l'islamisme vient jamais, oh, je ne dis pas à disparaître, car les religions ne meurent pas, mais à perdre la haute direction intellectuelle et morale d'une partie importante de l'univers, il succombera, non sous l'effort d'une autre religion, mais sous le coup des sciences modernes, portant avec elles leurs habitudes de rationalisme et de critique. D'un autre côté, il faut se rappeler que l'islamisme, bien différent de ces tours altières qui se roidissent contre l'orage et tombent tout d'une pièce, a dans sa flexibilité même des forces cachées de résistance. Les nations chrétiennes, pour opérer leurs réformes religieuses, ont été obligées de briser violemment leur unité et de se constituer en révolte ouverte avec l'autorité centrale. Mais l'islamisme, qui n'a ni pape, ni concile, ni évêque d'institution divine, ni clergé bien déterminé, l'islamisme, qui n'a jamais sondé l'abîme redoutable de l'infaillibilité, a moins à s'effrayer peut-être du réveil du rationalisme. À quoi, en effet, s'attaquerait la critique? À la légende de Mahomet. Cette légende n'a guère plus de sanction que les pieuses croyances que dans le sein du catholicisme on peut rejeter sans être hérétique. Strauss, évidemment, n'a ici rien à faire. Serait-ce au dogme? Réduit à ses lignes essentielles, l'islamisme n'ajoute à la religion naturelle que le prophétisme de Mahomet et une certaine conception de la fatalité, qui est moins un article de foi qu'un tour général d'esprit susceptible d'être convenablement dirigé. Alors serait-ce à la morale? On a le choix de quatre sectes également orthodoxes, entre lesquelles le sens moral conserve une honnête part de liberté. Quant au culte, dégagé de quelques superstitions accessoires, il ne peut se comparer, pour la simplicité, qu'à celui des sectes protestantes les plus épurées. N'a-t-on pas vu, au commencement de ce siècle, dans la patrie même de Mahomet, un sectaire provoquait le vaste mouvement politique et religieux des Wahhabites, dont les destinées ne paraissent pas encore terminées, en proclamant que le vrai culte à rendre à Dieu consiste à se prosterner devant l'idée de son existence, que l'invocation de tout intermédiaire ou intercesseur auprès de lui est un acte d'idolâtrie, et que l'action la plus méritoire serait de raser le tombeau du prophète et les mausolées des imams. Des symptômes d'une nature beaucoup plus grave se révèlent, je le sais, en Égypte et en Turquie. Là, le contact des sciences et des mœurs européennes a produit un libertinage de croyances quelquefois à peine déguisées. Les croyants sincères, qui ont la conscience du danger, ne cachent pas leurs alarmes et dénoncent les livres de sciences européennes comme contenant des erreurs funestes et subversives de toute foi religieuse. Eux n'en persistent pas moins à croire que si l'Orient peut surmonter son apathie et franchir les bornes qu'il n'a pu jusqu'ici dépasser en fait de spéculation rationnelle, l'islamisme ne posera pas un bien sérieux obstacle au progrès de l'esprit moderne. Le manque de centralisation théologique a toujours laissé aux nations musulmanes une certaine liberté religieuse. Quoi qu'en dise M. Forster, le califat n'a jamais ressemblé à la papauté. Le califat n'a été fort que tant qu'il a représenté la première idée conquérante de l'islamisme. Et quand le pouvoir temporel a passé aux émirs d'Iomra et que le califat n'est plus qu'un pouvoir religieux, il tombe dans le plus déplorable abaissement. L'idée d'une puissance purement spirituelle est trop déliée pour l'Orient. Toutes les branches du christianisme elles-mêmes n'ont pu y atteindre. La branche gréco-slave ne l'a jamais comprise. La famille germanique l'a secouée et dépassée. Seules les nations latines s'y sont prêtées. Or, l'expérience a démontré que la foi simple du peuple ne suffit pas pour conserver une religion, si une hiérarchie constituée et un chef spirituel ne veillent à sa garde. Est-ce la foi qui manquait au peuple anglo-saxon quand la volonté de Henri VIII le fit passer sans qu'il s'en aperçût, un jour au schisme, le lendemain à l'hérésie? L'orthodoxie musulmane n'était point défendue par un corps permanent, autonome, se recrutant et se régissant lui-même, et donc assez vulnérable. Il est superflu d'ajouter que si jamais un mouvement de réforme se manifestait dans l'islamisme, l'Europe ne devrait y participer que par son influence la plus générale. Elle aurait mauvaise grâce à vouloir régler la foi des autres, tout en poursuivant activement la propagation de son dogme, qui est la civilisation. Elle doit laisser au peuple la tâche infiniment délicate d'accommoder leurs traditions religieuses avec leurs besoins nouveaux, et respecter le droit le plus imprescriptible des nations comme des individus, celui de présider soi-même, dans la plus haute parfaite liberté, aux révolutions de sa conscience.